l'église.
On va pas y passer la nuit.
Ah, Molo sur le Destroy.
Juste à gauche de Saint-Af, au cul de l'église.
Et les gars, et Molo sur le Destroy là.
On va pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va quand même pas y passer la nuit.
Ah bah non, on va pas quand même y passer la nuit.
T'es bé où ?
Au cul de l'église.
On va pas y passer la nuit.
À la bonne heure.
Au cul de l'église.
Et Molo sur le Destroy.
Molo sur le Destroy.
Bon, on va pas y passer la nuit.
Ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra la rabia del pueblo.
Nous résolons, si tant, on est les seuls à pouvoir bousculer les choses.
On va pas y passer la nuit.
Cul de l'église, mon gars.
Salut la compagnie, addict des flatulences endiablées mais saintement placées. Montez le volume, ça va décoiffer, on est bien placé pour changer les ondes et on s'y attelle tous les jeudis soirs en direct avec la crème de la crème, le haut du panier saint-africain, trêve d'élitisme. Nous avons du monde dans le studio.
Oh oui,
un peu.
Beaucoup.
Beaucoup.
C'est parti.
Fred, ça va, mec?
Ça va, et toi?
Bah ouais, bien, pas trop mal. La musique n'est pas une religion, mais que dire de l'économie? On va regarder du côté de l'Argentine ce soir avec toi. Ça va, Lulu?
Ça va, nickel, merci.
Notre Ludo est en studio et va nous parler de bouffe, une passion. Mais ça ne va pas être saucisse, tripou, aligo ce soir, des trucs pas ordinaires quoi, non?
C'est ça, ouais, c'est exactement ça.
Ça va, Shams?
Ouais. Écoute, j'ai pris un gage la semaine dernière, donc du coup...
Et oui!
Je me revois obligé de retravailler mon texte et le faire normalement, dans des bonnes conditions.
Bravo, hein, que dire de plus? Tu remets ça, parole, écriture, religion... Sciences et réseaux sociaux. On est bien au cul de l'église à Saint-Afrique, alors ça va poncer au papier de verre avec toi, Andy Shams, à tout à l'heure. Ça va, Kakapo?
Impeccable, et toi et vous et tout le monde, bonjour.
Oui, bonjour, Kakapo. Bonjour.
Salut, Kakapo.
Tu vas nous éclairer, voire nous éblouir. Les portes de la perception sont grandes ouvertes. Mais putain, je trouve pas la lumière. Mais à droite, en rentrant, espèce d'imbécile. Bon, à tout de suite, mon petit Kakapo.
Oui.
Y a Jojo qui est avec nous aussi.
Salut Momo, salut tout le monde.
Ça va?
Ouais, bonjour. La patate.
Alors, les climato-sceptiques, c'est quoi? Comment ça marche? Vers où? Pourquoi?
Je suis désolé. Je m'en excuse d'avance.
Contre le climat.
D'accord.
C'est ceux qui croient pas en la météo, en fait.
Ah ouais, sérieux?
Ouais. Non mais ouais, carrément.
D'accord, ils sortent en t-shirt quand il pleut.
Voilà, c'est voilà, ça, c'est ceux qui sont pas informés.
Et en kawaii quand tu fais beau.
Et derrière la vitre, mais de retour, notre petit Jean à la technique.
Ouh, il a plein de gens.
Je voudrais faire partie de votre bande, les gars, mais tout d'abord, je vais vous chanter une petite chanson.
Rappelez-vous, c'est parti.
C'est parti.
Ah, il y a de l'ambiance, hein.
Ah, ce soir, c'est bouillant, hein. Et pour la première perlouse ecclésiastique, c'est Antoine de retour dans nos creux, dans nos montagnes, mon petit Antoine.
Oui, et ben voilà, bonsoir à tous. Alors moi, je me suis barré une semaine et résultat, je me suis fait chourer mon émission. Donc, bravo les gars, effectivement, j'aurais un petit son marrant à vous présenter. On fera une petite dédicace à Tony qui est passé il y a quelques semaines dans l'émission.
Ben ouais, ben si tu peux nous en dire un peu plus, puis après on voit ça, quoi.
Eh ben, ah oui, c'est à moi tout de suite. Mais écoute,
ouais,
c'est donc un petit enregistrement d'une émission sur Radio Campus Tours la semaine dernière. Big up à tout, Fred. Et je sais pas si vous vous rappelez, Petit Bred, qui est passé quelques fois à la radio, une fois au cul de l'église, qui nous avait présenté un billet, une réaction, un billet d'humeur sur les DRH, l'affaire des DRH d'Air France, qui est retournée à Tours, par chez lui, là où il faisait de la radio avant. Et donc, tu vois, ils lui ont demandé des nouvelles. Alors, ton installation à Saint-Affé? Voilà, ce qu'on va entendre tout de suite, c'est le témoignage de Tony Tibred, de retour dans sa radio Campus à Tours.
À Saint-Afrique, donc c'est une ville de 9000 habitants, mais où il y a plus de 130 associations et où la politique culturelle et la ville soutient ces associations. Et il y a une très belle radio, donc là-bas, Radio Saint-Afrique, qui existe depuis 1981. Et donc sur cette radio qui a participé donc au mouvement des radios libres, et puis un des fondateurs avait déjà fait la radio pirate dans le Nord. Je vais te retrouver son nom d'ailleurs. J'ai un petit historique.
Pendant ce temps-là, je dis que Jean-Michel Saint-Afrique, ça s'écrit Saint au masculin.
Et Afrique avec deux F. Avec deux F, oui,
alors,
voilà.
Qui était Saint-Afrique alors
ça, je suis nul en histoire et puis je retiens pas très bien, mais c'est donc un évêque africanus. Et l'évêque africanus qui a fait du bien à la ville, beaucoup de bien à la ville, et du coup qui l'a marqué. Quand je disais qu'on avait l'esprit lubrique dans l'émission. Et du coup, oui, donc
j'espère que l'évêque se faisait du bien de temps en temps lui-même.
Oui, il faut bon. Toujours.
Et comment ça s'appelle les habitants de Saint-Afrique alors,
les Saint-Africains.
Les Saint-Africains, les Saint-Africaines.
Oui.
Ça, c'est bon. Il fallait s'y attendre un petit peu.
C'est logique, quoi.
Ouais, c'est logique. Une belle association pour diriger cette radio qui s'appelle Radio Saint-Afrique.
Radio Saint-Afrique, oui. Donc, comme je le disais, fondée en 1981 et...
Dans le
mouvement des radios libres, oui. Et puis avec première autorisation des maîtres en 83 et à plusieurs personnes qui sont passées à Radio Saint-Afrique ont eu des prix de création radiophonique, donc notamment au MIDEM, à Cannes ou à La Rochelle. Et depuis, finalement, la radio ne cesse de se développer. Voilà, de la présentation de l'association, il y a entre 20 et 30 bénévoles. Il y a 4 salariés actuellement, si je ne me trompe pas. Voilà, un journaliste qui fait de l'information locale, régionale, et comme il le met aussi sur le site internet intergalactique, c'est Grégoire.
Je suis trop grave, si je suis trop grave, faut que je monte dans les écus.
Grégoire, si je me trompe pas, oui, Grégoire, que j'ai rencontré en premier, et ensuite j'ai pu rencontrer Antoine et Jean, qui sont deux techniciens, mais qui anime également une émission le jeudi soir de 20h à 21h qui se nomme Au cul de l'église.
Au cul de l'église, mon gars.
Parce qu'il faut savoir que les locaux de la radio se trouvent derrière l'église de Saint-Afrique. Et
comme tous les rendez-vous d'amour.
Voilà, comme tous les rendez-vous d'amour.
C'est derrière l'église. Ouais.
Mmh. Et c'est une radio qui rappelle que les radios associatives sont professionnelles.
Bon, tu le lis, oui. Oui, non, mais il faut que tu te taises, sinon c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Je vais pas y arriver.
Voilà, et que la qualité de leur programme, malgré le manque de moyens, équivaut à la qualité de programme de radio publique.
Pas de pays sans paysan.
Pas de région sans si.
Marc.
Pas de si.
Pas de ça.
Sans souci.
Sans cela.
Pas de.
Fumée.
Sans feu.
Pas d'idée.
Sans être.
Et quelles ont une vertu, c'est de donner la parole, c'est de ne pas confisquer la parole des auditeurs.
Oui, voilà, c'est moi, ouais, c'est surtout. Confisquer. Oui.
L'involution, ça veut dire.
C'est drôle parce que les radios professionnelles sont bourrées de bon matériel, de bons micros et tout, mais les micros sont jamais tendus sous la bouche des gens qui ont des choses à dire.
Depuis quand les gens ont-ils des choses à dire?
C'est une émission forum qui traite des bonnes sociétés
Pas forcément, non. C'est vraiment un sujet, une émission ouverte aux bénévoles. Et donc si on a une thématique, un sujet, on peut s'exprimer librement. Donc juste avant moi, il y avait, je ne me rappelle plus son nom malheureusement. Aussi un participant qui nous a fait un petit cours d'histoire sur Saint-Afrique, et j'ai pas bien retenu, mais je suis nul en histoire, j'ai du mal avec les dates et les, et tout ça. Mais sinon, des rubriques écologiques aussi. C'est une émission, c'est l'émission libre de la radio. Même si tout est libre dans cette radio.
Libre est l'état de celui qui jouit de liberté. Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne.
Et l'animateur est permanent, c'est lui qu'on entend mener le débat avec toi.
C'est un des techniciens. C'est Antoine, donc qui lui est également animateur de cette émission.
Il a l'air d'être un beau laïcard.
Hey, coco. Et je vais te dire, affirmatif, coco.
Oui. Il parle du cul de l'église d'une façon un peu humoristique.
Ah bah oui,
ils sont
tous des laïcards.
Hein. Et les gars.
Tous des laïcards.
Qu'on leur coupe la tête.
Je pense, oui.
Et quelle est la couleur, grosso modo, politique de Centrafrique? Alors c'est gauche?
C'est à gauche. Ça reste à gauche.
Juste à gauche de Saint-Af, au cul de l'église.
Yes, ah. Et ben oui, c'est le cul de l'église, quoi, les gars, bien évidemment.
On n'y passe pas la nuit, hein. Ah ouais, franchement, bien.
Et voilà, donc juste un petit merci quand même à Tony, qui a présenté cette émission en direct sur Radio Campus Tour, qu'on peut trouver sur Internet.
Waouh. Yes. Ouais, t'as rajouté 2-3 trucs quand même.
Ah oui, ah, belle vous avez, je connais des petits clins d'œil de vos montages et autres.
Bah oui, on reconnaît tes clins d'œil quand même.
Antoine, pour
merci à vous et à Tibred.
Ouais, surtout à Tibred, parce que ça avait l'air sympa ce qu'il a fait quand même.
Ça gère. Bon, on va se tourner vers Fred qui va nous parler de l'Argentine, de l'économie, nous faire une petite leçon.
Voilà, il n'y aura pas trop de dates dessus, un petit peu quand même.
Ah, ça va.
Ouf. On est sauvés. Bon, c'est parti.
Yalla.
Buenas tardes, querido oyente de Radio Centrafrique. Bon, bah, c'est tout ce que je vous dirai en espagnol parce que j'ai fait allemand en seconde langue. J'ai chopé ça sur Google, c'est facile.
On pourrait avoir la traduction de Grégoire, peut-être.
Ouais. C'est-à-dire?
Non, parce qu'il parle espagnol, Greg.
Ah, d'accord. Bah, ça veut dire bonsoir à tous les gentils animateurs, non, les auditeurs de Radio Centrafrique. Voilà.
Merci.
Je vais vous parler de l'économie donc de l'Argentine. Ouh là 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 là, ça va être relou. Enfin, peut-être, mais ça va être surtout intéressant. Hein. Allez, on va s'accrocher. Bon, j'y vais. Souvenez-vous, en 1998, l'Argentine débute une grave crise économique liée à un système monétaire fixé sur le dollar alors qu'ils n'ont pas l'économie des États-Unis. Eh ouais, c'est con de s'indexer sur une monnaie qui n'est pas la nôtre. Lorsque l'économie états-unienne se rétracte vers les années 2000 à cause de l'éclatement de la bulle spéculative des start-up de merde qui valent que dalle, les Argentins perdent beaucoup de fric à cause du dollar. Et paf, ils demandent de l'aide à qui ? Au FMI, qui, comme vous le savez, prête de l'argent à condition d'une austérité, ce qui plonge l'économie dans la récession. Voilà, tout ça, c'est des mots très compliqués. Hein.
Donc la récession, les gars.
Hein, vous savez tout ce que c'est bon ? En effet, si tu donnes moins de thunes au peuple, le peuple ne dépense plus. C'est pas le bon papier. Et le serpent se mord la queue. Tiens, comme en Grèce. Ouais. Et ça, c'était en 2000. Bref, l'Argentine demande donc aussi des prêts à des boîtes privées et à ces fameux fonds vautours qu'on appellera après, américains évidemment, dont deux qui font chier. On en reparle après. Bref, ils ne s'en sortent pas à cause de l'austérité et décident de renégocier les prêts en envoyant se faire voir chez les Grecs tout le monde en disant on rembourse que 30% des prêts. Donc ils ont emprunté plein d'argent et à un moment ils disent vous arrêtez de nous ponctionner, on vous rembourse que les 30%. Le FMI accepte parce qu'il était cool à cette époque et les autres pays aussi prêteurs parce qu'ils voulaient pas si ça leur arrive qu'on soit sympa avec eux. Du coup plus personne ne prête aux pauvres pays qui est en récession. Donc voilà, vu qu'ils décident de ne pas tout rembourser, plus personne veut leur filer de la thune. C'est pas trop grave parce qu'à ce moment-là, l'économie argentine est forte d'une bonne production métallurgique et agroalimentaire. Ils se relèvent avec une bonne croissance, donc de la thune qui rentre. En langage pro, ça fait une balance commerciale extérieure largement bénéficiaire. Donc grâce à leur économie, ils s'en sortent. Les fameux fonds vautours décident de porter plainte contre l'Argentine devant la Cour suprême américaine.
Mais c'est dégueulasse.
Et ouais, bah ils se sont fait rembourser que 30% de ce qu'ils avaient. Enfin, non, même pas. Ils se sont fait rembourser 30% de ce qu'ils demandaient. Car en effet. La Cour suprême évidemment américaine condamne l'État argentin. Et par exemple, il y a une des boîtes qui s'appelle Aurelius Capital Management, donc c'est des espèces de fonds obscurs, qui a prêté 48 millions à l'État argentin. Ils en demandent maintenant 832 000. Ils prêtent 48.
C'est ça les intérêts, mon pote.
Ouais, mais tu vois. Donc ils ont bien fait que de pas tout rembourser. Pas cool.
Fait niquer jusqu'au coup.
Du coup, les Argentins ont refusé la décision de justice.
Mais du coup, Fred, est-ce que tu sais par exemple, est-ce que les Argentins, ils ont remboursé le montant de la dette réelle qu'ils avaient empruntée ?
Non, 30%. 30%
de la somme prêtée au départ ?
Non, 30% avec les intérêts. Oui, ils ont remboursé.
Ouais, voilà.
Ont remboursé. Oui, c'est les intérêts. Enfin, en fait, il y a des pourcentages.
Le crédit de base a été remboursé.
Voilà,
le crédit. Largement remboursé. Ouais. C'est les intérêts.
Oui, mais en intérêt, puisque tu commences par payer les intérêts avant de.
Voilà.
C'est très bien fait.
Depuis, tout le monde demande de se faire rembourser. Enfin, tout le monde veut attaquer les Argentins au procès. Plus personne veut leur prêter de l'argent parce que c'est un truc de confiance, hein, c'est très important quand on prête à quelqu'un la confiance. Et plus personne a confiance envers les Argentins.
Et Zou, le triple A.
Voilà. Donc, en ce moment, ça repart en couille. Donc, ils s'en étaient sortis. Hein. Ils arrivaient avec leur économie réelle de s'en sortir. Et là, la Chine. Qui leur achète énormément de produits agroalimentaires, le métal qui descend, l'économie chinoise qui ralentit, donc, parce que c'est eux qui portent tout le monde sur leurs épaules. Hein. C'est pas les ricains ils font les malins, mais c'est les Chinois les plus forts.
La Chine, c'est les nouveaux ricains. Hein.
C'est la remerde en ce moment. Voilà. Du coup, le gouvernement Kirchner, qui a fait quand même. Le gouvernement Kirchner au début, donc ils ont envoyé se faire foutre tout le monde. Kirchner.
Ah oui!
Qui au début donc ont bien fait les choses, ils ont fait reculer la pauvreté malgré tout. Et ben maintenant ils font n'importe quoi parce que ça fait 14 ans qu'ils sont au pouvoir, c'est un couple. Donc il y a eu d'abord le mari, maintenant c'est la femme. Ça fait 14 ans qu'ils sont au pouvoir.
Ils ont des enfants ?
J'espère pas parce que là ça part en couille. Le pouvoir ça use. Donc résultat, il y a de la corruption grave. Eux ils sont enrichis comme pas. Et en plus, tous les chiffres publics sur l'économie sont truqués parce qu'ils ont mis des potes à eux dans toutes les agences nationales. Du coup, tous les gens qui voudraient leur prêter de l'argent, ils n'ont plus confiance. Encore la confiance. Alors tout le monde flippe. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils font les Argentins ? Ils rachètent des dollars. Ils rachètent des dollars parce que leur monnaie ne vaut plus grand-chose. Ils rachètent des dollars et ça fait comme au début. Donc le serpent se mord la queue. Voilà. Et donc le peso est dévalué et ça vaut plus rien. Donc il y a une économie noire qui se met en place et avec la corruption, ça s'arrange pas. Ah, l'économie. Une science de grande personne qui a un regard global et qui se marre à déplacer plein d'argent comme un gros monopoly. Du coup, nous autres pauvres Pueblo, on compte les points, les salaires qui baissent. Et alors ça énerve tout le monde. Les Argentins, eux, ils se mobilisent quand même dans la rue, ça bouge beaucoup là-bas. Il y a beaucoup d'anarchistes, hein, comme on le sait. C'était un des bastions anarchistes de l'époque. Le peuple se bouge et du coup, ils font de l'économie locale, mis à part dans les grandes villes où c'est un peu la merde. Voilà, c'est tout. Donc, ils se font bien baiser, ils se sont bien fait baiser à l'époque, ils se font bien baiser maintenant.
Ils ont encore le santé. Ils ont encore le football.
Et pour citer, le rugby. Et pour citer une phrase qu'on avait déjà dite de France Culture. Ah bah. Oui, l'économie argentine est obligée d'emprunter pour rembourser les prêts. Ça, c'est fort.
Ah, oui, exact. Un petit redit RFI.
C'est une manipulation courante, hein, il me semble.
Non, voilà. Ils essayent de tourner ça différemment quand même.
J'espère en général,
ils mettent pas deux fois le mot en prenant la même phrase.
Bah non, c'est ça, merci compatriote avec les Argentins.
Merci Fred.
Ouais, bon, bah, manger des steaks argentins
voilà.
Pour sauver l'économie. Donc merci d'ailleurs, nous allons parler cuisine avec notre ami Ludo. Alors qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Je parle pas des chips et des sandwichs au pâté, hein, bien évidemment. Je pense que tu nous as préparé un petit menu genre cuisine moléculaire ou un truc comme ça.
Pas trop en fait. C'est la vraie cuisine.
Ah ouais?
Ouais. Donc cher auditeur, si tu viens d'allumer ta radio sur le 96.7, non, tu ne t'es pas trompé. Tu es bien sur Radio Saint-Aff et tu arrives au bon moment pour entendre la rubrique de Ludo. Wow, Ludo qui va te parler ce soir de cuisine peu ordinaire. Oui, j'ai trouvé quelques petites perles, avec comme premier exemple le hackarl. Est-ce que quelqu'un connaît le hackarl?
Non, du tout.
Non.
Ah, hackarl, non.
Ça mange?
C'est une spécialité islandaise pleine de saveurs. Je te donne tout de suite la recette pour éveiller ta curiosité, car je sens que tu meurs d'envie de savoir ce que c'est. Donc, pour faire le hackarl, il te faut avant tout pêcher un requin, et le tuer immédiatement.
Facile.
Ensuite, tu l'enterres dans le sol et tu le laisses reposer environ 5 mois. Lorsque la chair est en putréfaction, tu le déterres et tu le laisses sécher pendant plusieurs mois. Ensuite, tu le coupes en petits cubes et tu dégustes ça en apéro en Islande. Avec la petite note du chef, lorsque le requin est tué, l'acide urique envahit immédiatement l'ensemble des tissus musculaires, ce qui donne à la chair ce petit goût unique. Bon appétit.
On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence.
Ensuite, j'ai trouvé deux recettes avec des œufs. La première vient de Chine. Ça s'appelle le lidan ou le lidan, je ne sais pas trop. Ou en français, l'œuf de 100 ans. Et ils mangent ça au petit-déj. Donc la recette. Vous prenez un œuf de canne. Vous le laissez reposer pendant environ 100 jours. Et non pas 100 ans. Heureusement qu'on ne saute pas des générations pour bouffer des œufs pourris. Donc tu le laisses reposer dans de la boue chargée de chaux, de riz et de feuilles de thé. La consistance de l'œuf va alors changer, ainsi que sa couleur d'ailleurs, pour devenir crémeuse sous l'effet de l'ammoniac. On le consomme ensuite comme un œuf dur avec un peu de vinaigre. Il est quand même précisé qu'il faut faire gaffe aux odeurs de soufre quand on l'ouvre. Bon appétit.
C'est de la merde. Quoi ? Sire ?
Non, attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus.
C'est ça votre spécialiste ?
Allez, non, mais essayez de développer un peu.
Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. On me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une tige dans sa tête.
L'autre recette est une spécialité qui nous vient de Malaisie. C'est le balu. Donc, la recette du balu. C'est une recette à base d'œufs aussi. Donc, vous prenez un œuf de canne ou de poule qui a été fécondé.
On peut pas prendre doigt.
Non, c'est...
Canne ou poule, t'écoutes pas toi.
Mais les doigts, ça que fait ça. Pas des œufs.
Qui a été fécondé et après environ 18 jours, vous le pochez pendant 20 minutes dans de l'eau bouillante salée. Vous l'ouvrez comme un œuf à la coque. Vous assaisonnez l'embryon avec un peu de coriandre, du sel, du poivre et une petite pointe de citron vert. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à le gober à l'aide d'une petite cuillère.
Bon appétit.
Ça n'est pas illuminé, c'est de la merdasse.
Il existe aussi un mets norvégien tout à fait original qui s'appelle le lutefisk.
On déconne.
Celle-là, elle est bien. Il s'agit d'un poisson blanc séché, puis trempé dans de l'eau froide changée tous les jours pendant 5 jours. On le fait ensuite macérer pendant 2 jours dans une solution saturée d'hydroxyde de sodium, ou plus communément appelée soude caustique, ce qui permet au poisson de retrouver son volume initial. On le fait ensuite de nouveau tremper dans de l'eau froide pendant 4 à 6 jours. Et ce n'est qu'une fois sa consistance proche de la gelée que le lutefisk pourra être consommé.
Bon appétit.
C'est de la merde.
Bon, je pourrais encore vous parler des punaises en sauce du Mexique ou encore des larves de guêpe de la Réunion. Mais j'ai préféré une toute autre recette. La gerboula de d'escargot à l'ancienne.
À table.
Oui.
Alors, c'est mercredi après-midi, il y a une bande d'enfants qui arrivent chez vous. Et vous allez leur proposer quelque chose, une bonne recette bien de chez nous que Bruno va vous expliquer.
Oui. Alors bon, ma petite Yolande, comme tu dis si bien, c'est surtout pour les gamins que j'ai réalisé ça. Alors bon, j'ai d'abord préparé un lit de gâteau tartiné au chocolat.
Alors bon, donc c'était pas le bon son, on va vous mettre le bon, de la gerboula de d'escargot à l'ancienne.
Non.
Non.
Tu l'as oublié, lui.
Non, on l'a pas oublié.
C'est un refus catégorique.
On l'a pas oublié du tout. Donc, quand les... Voilà.
Eh oui, c'est moi le père du crasse. Je vais vous montrer comment je prépare la bonne gerboula de l'escargot à l'ancienne, comme le préparait mon grand-père. Je prends tout d'abord une bonne demi-douzaine d'escargots bien dodus, que je fais geler pendant plusieurs jours, et que je fais baver afin d'en extirper toute la bave. Après, quand j'ai récupéré toute la bave dans une cuvette, je passe les escargots à la moulinette comme ceci. Et ensuite, avec les mains comme le faisait mon grand-père, je malaxe le tout pour obtenir une bouillie de gastéropodes bien compacte à laquelle je vais rajouter la bonne bave récupérée pour rendre le tout plus onctueux, bien sûr. Ensuite, je verse dans le pot et vous n'avez plus qu'à déguster chez vous. Et pour être sûr qu'elle est bien réussie, ma chère Boulal, c'est mon fils qui goûte chaque pot. Antonet.
Père Ducrasse, les bons produits comme à l'ancienne.
Bon appétit.
Voilà, à chacun sa spécialité. Moi, je finirai sur une recette de Yolande et de Bruno Locher.
À table.
Oui.
Alors, c'est mercredi après-midi, il y a une bande d'enfants qui arrive chez vous. Et vous allez leur proposer quelque chose, une bonne recette bien de chez nous que Bruno va vous expliquer.
Oui. Alors bon, ma petite Yolande, comme tu dis si bien, c'est surtout pour les gamins que j'ai réalisé ça. Alors bon, j'ai d'abord préparé un lit de gâteau tartiné au chocolat. Hein?
L'enfant aime le sucre.
L'enfant aime le sucre et surtout le chocolat. Hein? Je mets un peu d'huile dans ma poêle, pas trop. Hein? Voilà.
C'est une recette à base d'huile.
Ensuite, je vais faire frire une tranche de pâté de foie de porc. Hein? Là. Attention parce que ça boue, hein. Ça boue un peu, hein. Faut faire attention, hein. Alors ensuite, je baisse mon gorge un peu parce que...
Faut
juste saisir, hein. Saisir le pâté, hein.
Saisir le pâté.
Une fois que le pâté est saisi, hein, je prends ma tranche, là, que je vais mettre légèrement sur mon lit de gâteau au chocolat.
Oui.
Je rajoute un peu de sauce parce que moi j'aime bien saucer toujours, hein. Là.
Ce qui permet au biscuit de bien s'imprégner du liquide,
voilà.
Car au départ, le biscuit est sec par lui-même.
Voilà. Moi, j'en rajoute un peu, hein, pour mon goût personnel, hein. Parce que bon, ça absorbe pas mal, hein, quand même, faut admettre, hein. Voilà. Et je peux vous garantir que moi, mon gamin, hein, il mangeait jamais de charcuterie, hein. C'était à chaque fois un problème à la maison. Eh ben, je peux vous dire que maintenant, du pâté de foie, il en mange, hein.
Avec un peu de chocolat, ben, faut passer tout le reste. Puis ça se découpe comme un gâteau traditionnel. En 6 ou en 8.
Voilà, c'était la recette du pâté de foie frit sur un lit de gâteau des chiens. Je finirai avec une petite chanson de Juliette.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson.
C'est bon.
Répétons sur ces airs polissons. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux.
Et ça c'est beau.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson. Répétons sur cet air polisson.
Qui c'est qui est
bon? Qui c'est qui est bon? C'est le cochon, c'est bon. En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné, driette du Mans. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin.
C'est bien.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon,
c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon,
c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons.
2, 3, 1, 2.
Dépendant le cochon, du groin jusqu'au chambon.
C'est bon,
c'est bon,
c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon,
c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson. Répétons sur cette terre pollution.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Qui c'est qui est bon, c'est le cochon. C'est bon.
Eh bien, merci Ludo pour toutes ces recettes très appétissantes.
C'est un plaisir.
Voilà, j'espère que nous ne vous aurons pas surpris à table et coupé l'appétit.
Ah oui, il s'est décarcassé en tout cas.
Il est vrai.
Mais je suis pas prêt d'aller manger chez lui. Hein.
Non, ça donne pas trop envie d'y aller.
Oh, quand même.
Enfin, les autres 100 ans quand même, j'aurais bien qu'on y goûter.
Pour test, quoi. Juste ouais. Pour la couleur.
Voilà,
juste et pour la ça. Texture.
Bon, passons du coup, Shams, je crois qu'on va la refaire en plus détendue, si tu vois
ouais,
ce que je veux dire.
Non, mais écoute, je vais essayer de racheter mes péchés, de relier ma communion avec Dieu, tu comprends, et puis je pense que voilà, je refais plus d'erreur, voilà.
C'est ta dernière chance.
Je vais accomplir ma peine.
C'est promis.
Tempo 60. De la parole est née la plume. Et de par elle, ce qu'on ignore ou sait prend forme. L'écriture est une manière de graver ses pensées. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Cela dit, elle demande une grande retenue pour ne pas créer de confusion, dès lors que l'on assume ses propos. Alors, elle permet, par la patience qu'elle nécessite, de mieux s'exprimer dans le sens où on fait transparaître son ressenti le plus fidèlement possible. C'est ainsi qu'on obtient un langage épais. On cherche automatiquement à raccourcir son texte, et donc, trouver des mots précis, voire en inventer lorsqu'il est nécessaire.
Respire, respire, respire.
Mais c'est cette recherche de facilité qui a fini par détruire l'écriture, et avec elle, un moyen de peser ses mots. L'outil informatique nous transforme en incapables sur de nombreux domaines, mais je pense sincèrement que ces outils sont aussi néfastes sur le long terme qu'un fusil pointé sur nos têtes. Il en est de même pour l'écriture. Un réflexe naturel depuis la nuit des temps est en train d'être annihilé aux yeux de tous. Nous sommes nombreux à lire, mais si peu à écrire. La parole et une porte ouverte sur le monde à partir du moment où on la maîtrise. Nous pouvons parler aux mendiants comme nous pouvons parler au roi. Il y a donc le registre, le choix des mots qu'on utilise. Celui qui aura un vocabulaire étendu et le tact qui doit y être associé aura peu de peine dans un entretien d'embauche pour pouvoir dire à l'autre les mots qu'il ou elle veut entendre. Notre système joue beaucoup sur ça, notamment les politiques. Se servir de la parole uniquement dans ce sens fait de vous un manipulateur. C'est fausser la parole. Aujourd'hui, dans la société, tout nous mène à fausser notre parole, que ce soit les médias de masse, qui utilisent la simplification, la vulgarisation de tout thème, ce qui au final ne s'apparente pas à l'information, et nous prive également de la possibilité d'y faire une réponse construite. Sans mots, nous sommes incapables de nuire au système tel qu'il est. La politique se sert uniquement de registres et de rhétorique pour éviter d'avoir à faire face à un problème direct. Et c'est pas seulement fausser la parole, c'est aussi être à côté de ses pompes. La démocratie, si elle existe, prend forme dans la libre expression. C'est l'expression qui monte et démonte les doctrines, murs et frontières. C'est pareil que nous pouvons répondre aux multinationales qui nous forcent à accepter des traités liberticides complètement tordus. Si on se fendait tous la gueule à chaque fois qu'ils nous pondaient un texte de loi aberrant, la République prendrait une autre forme. Il faut arrêter de prendre au sérieux ces hommes politiques qui ne le sont pas. Maintenant, j'en viens au fait que pour sortir de ça, il n'y a pas que le choix du registre. Il y a le caractère, la personnalité dans l'écriture. C'est ce qui fait la couleur d'un texte, grâce auquel il nous est possible d'interagir entre nous et de créer ensemble cet outil fondamental qui vient avant tout le reste. Nous devons peser nos mots pour leur donner forme. Un mail, un texto est dépourvu de personnalité. S'il n'y a plus que le choix des mots dans la compréhension d'un texte, le message est impersonnel. Tout peut porter à confusion. Et la transmission n'a que peu de valeur. Il n'y a plus la pression de la plume qui vous indique si la personne est en colère ou reposée. On écrit sur un support éphémère. Il n'est pas gravé. Enfin, dans Internet, le message est gravé tant que Google le veut bien. On peut tout perdre à n'importe quel moment du reste. L'électricité est quelque chose de fragile. Le net commence à saturer et aucun ordinateur n'est à l'abri d'un bug. Tout le bagage virtuel de savoir ou de réflexion est factice. Il n'y a que des failles. Et les réseaux sociaux, c'est encore pire. Maintenant que la génération actuelle d'adolescents ne vit que par ça, c'est toute la société qui va être affectée avec le temps. Notre manière de communiquer et d'approcher les autres sera impersonnelle. Et les médias mainstream tendent vers ce type de fonctionnement, cette rationalisation. L'écriture change de forme et nous commençons tout juste à en sentir les effets malsains. Cela devient rapide et incontrôlable. Ce qui est bien seulement dans un sens, si l'expéditeur du message sait et assume ce qu'il transmet. La parole a cela d'important qu'elle retransmet à coup sûr les émotions entre les variations de ton et les expressions du visage. Nous accédons donc à un niveau de compréhension qui est supérieur. Il doit en être de même pour l'écriture. La religion et la science, quant à elles, ont les mêmes méthodes. Elles se servent de l'ignorance pour établir leurs propos. Elles sont aussi deux facettes d'une même chose qui naît de la curiosité, en soi. Ils ont exactement la même façon de s'exprimer. Ils n'ont juste pas le même registre. Que ce soit en bon ou en mauvais, le croyant extrémiste et le scientifique buté ont le même esprit obtus, fermé à tout propos contraire. Supprimer leur logique et tout s'effondre, car ils ont besoin de ça pour exister. Ils feront tout pour vous convaincre de la véracité de leur dire, alors qu'à l'inverse, le croyant ou le scientifique passionné ont pour base la curiosité et n'auront aucune assurance. Un nombre incalculable de doutes et de « et si », mais ils auront la confiance, qui est l'opposé de la science. Ainsi, ils n'ont aucun intérêt à vous convaincre de quoi que ce soit, puisqu'ils sont ouverts d'esprit. Aujourd'hui, nous en sommes à un point où notre raisonnement cartésien atteint ses limites, et la physique quantique est la seule qui ait permis à ce point de rapprocher la science de la religion. Et comme ce sont deux choses qui font pas mal de bordel sur notre planète, je me dis qu'on doit envisager les deux d'une bien mauvaise manière pour essayer d'avancer. Et que toute la logique d'expression est à revoir si nous voulons essayer de comprendre le monde tel qu'il est. C'est donc le dernier point important de la parole et de l'écriture, la logique, et chaque personne a la sienne. L'interprétation du langage, c'est grâce à ça que vous pouvez faire les meilleures vannes du monde. Si vous comprenez la logique, vous comprenez aussi l'illogisme. Vous pouvez donc jouer avec les mots sur autant de degrés qu'il est possible. C'est ce qui permet de voir l'écriture dans son fonctionnement mathématique. Une succession de nœuds dramatiques et de chutes comme dans une histoire par exemple. Il suffit juste de voir ces différents aspects de la parole pour voir si votre interlocuteur est faux ou honnête. Et si vous êtes ouvert d'esprit, il sera très difficile de vous mettre en colère, je pense. Et pour terminer, j'ajouterai que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.
Je dégrave quelques vers, glousse des rimes amères, des poussières, des cils R, dans zig sans frontières. Je grave tant des micros, des tonnes de phases achetées au kilo. Cimetière d'MC qui enterre les bas du musique, dont partage la forme des gros. Voici le deal, principe éthique et pas juste pour tu kiffes. C'est comme te rassure, blues rap, hein. Mélodie, tel est le seul nom auquel j'adhère. Pas de passé, pas de présent, l'instant mon crâne, j'entends.
Stop the sound, please. I have a melody running, running, running. There's no remedy, baby. Can't you see? Can you stop the sound, please? I have a melody running and running and running. There's no remedy, baby. Can't you see? I think the blues are coming.
Together with the beats we will show you, you will be able to play most of the popular music of today.
I'm so sad and lonely and I don't want a thing more than that. You know a melody grips you, feeds you and sleeps you. It's just so fine inside with that fucking soul to close your ears. Drag your cheese, everybody needs a good melody from here to here. But I can't be sick of our tricks, lyrics within souls explode. Loads become holes with my pain, spinning on the beat. I wanna think about Maggie or Marty or what's her name. I don't care, tribal rivalries, memories, give melody that I'm all my need, and I'm a born to say. No need to walk in you the man with empathy. No need to talk me with a cry, just for me. People around looking at my boys, bringing a talk off with all my just to begging it. Can you stop the sound, please? I have a melody running and running, running. It's no remedy, babe, can't you see? Stop the sound, please. I have a melody running and running and running. It's no remedy, babe. Can't you see? Can you stop the sound, please? I have a melody running, running, running. It's no remedy, babe. Can't you see? Can you stop the sound, please? I have a melody running and running and running. It's no remedy, babe. Can't you see? Stop the sound, please. I have a melody running, running, running. So no remedy, babe, can't you see? Well, I'm in the blues. Oh, maybe, maybe.
Yes, c'était Scarecrow avec Remedy. Et merci à Shams pour son papier de verre qui nous a bien gratté, gratouillé dans tous les sens, hein. Bon, c'était chouette. La semaine prochaine, tu nous fais une application toutes ces théories pour qu'on sente la puissance de la parole.
Arrêtez vos conneries, là, il y a trop de pression, là. Comment je fais ça sans papier?
Mais c'est pas facile. Voilà. T'as pas voulu d'aligo aussi, super. Tu serais un peu plus détendu, là. Sur la digestion, ouais. Ça se passe mieux. Bon, bref, on va passer à Kakapo.
Ouais.
Alors, Kakapo, là, je crois qu'il va nous foutre le feu au studio, quoi.
Kakapo.
Espèce de petit délinquant. Bon, on va se refaire
depuis un moment.
Bon, les gars, on se calme, là. On va essayer de s'écouter un petit peu, quoi. Tranquille, hein.
Ça fait longtemps que je veux mettre feu partout, mais...
Bon, d'accord. Bon.
Je suis tout seul, donc
mais
ça marche pas.
Mais au Parti communiste, c'est difficile. Il faut aller plus à gauche encore.
Bon, on se fait un petit remember des banlieues en 2005 avec toi, mec.
Oh, tout à fait.
Allez, c'est parti.
Z doit appartenir à l'ensemble.
Les atomes et les particules encore plus petites.
C.
Proton et neutron.
Moins 0. Z plus 5 sur Z égale
la gravité 2 se propage
dans l'ensemble des nombres complexes grand C.
Minuscule brin d'énergie.
Et des distorsions K dans le tissu même K de l'espace et du temps.
Oh.
Quelle est la condition sur les solutions?
Selon la théorie des corps,
il
les constituants de la matière.
Votre explication ne me suffit pas.
J'ai pourtant clair.
Kakapo.
Ah oui, 10 ans déjà. Et une bande de collègues rentre d'un match de foot sur le chemin des flics. Les gamins ne voulaient pas avoir affaire à eux. En course-poursuite, hein, ça en suit. On connaît déjà la suite. Les deux jeunes s'enferment dans un transfo pour se cacher. Les flics ont bien regardé gris. Les ont bien regardé gris.
L'involution, ça veut dire... L'involution, c'est... L'involution, ça veut dire...
Deux jours avant, Sarko, qui était ministre de l'Intérieur, promettait à Argenteuil, dans le Val d'Oise, de la débarrasser de la racaille qu'il a dit. Et quatre mois avant, à la Courneuve, il voulait passer les cités au Karcher.
L'évolution, ça veut dire... L'évolution, c'est... L'évolution, ça veut dire...
Les émeutes commencent, à Clichy et en quelques temps, partout. De Dunkerque à Nice, de Strasbourg à Toulouse, les révoltes toucheront 300 villes, dont 230 bâtiments publics, 10 000 voitures calcinées, 3 semaines sans drapeau ni slogan. Mais la réponse du gouvernement, c'est pas de dialogue, de la répression. Le 9 novembre, le gouvernement de Villepin déclare l'état d'urgence Un couvre-feu est mis en place dans une trentaine de communes. On n'a jamais revu ça en métropole depuis la guerre d'Algérie. Puis viennent les condamnations. 6056 personnes arrêtées, dont 422 avec de la prison ferme. 80% étaient connus pour des faits de délinquance. Tu mens encore, Sarko, seulement un tiers était connu. Mais contre la misère sociale, la rénovation ne suffit pas. Depuis 2005, l'histoire des banlieues est celle de la démission de l'État et de l'échec des politiques publiques, économiques comme sociales. 10 ans après, ils se sont bougés un peu pour rénover tous les blocs, mais n'ont pas amélioré la vie des gens.
L'évolution, ça veut dire... L'évolution, c'est... L'évolution, ça veut dire...
L'État sourd, jusque-là, a débloqué des fonds, mais pas assez pour tous les quartiers. Et au final, rien n'a changé. Toujours autant de manque d'emploi, de pauvreté, d'échecs scolaires, pardon. En 10 ans, le paysage a changé, évolué. Pas le reste. L'humain et le social n'est toujours pas au rendez-vous. Mais attention, un accident de la circulation en banlieue est vite arrivé. Et peut dégénérer en violence urbaine. Tout le monde le dit. Le feu couve, la mèche peut se rallumer.
Oh ouais, c'est grave la merde dans la banlieue, quoi.
Ouais, franchement.
Ouais,
j'ai des potes, ils habitent à la Capelle. Et...
Non, arrêtez,
c'est
que je j'ai jamais rencontré tes potes.
Faites le voir là-bas. C'est ouf, ça va péter. Bon, grave, parce que là, il va commencer à faire froid, donc va falloir faire du feu.
Ouais. Les voitures, ça crame.
Pas d'appel à la.
Alors. Bon, et qu'en est-il du climat alors? Parce que bon, hein.
Il fait chaud.
Pas social, chaud, hein, mais le climat. Climat comment? C'est le climat tout court, quoi.
Le climat tout court.
C'est parti.
Allez, bonsoir tout le monde, c'est Jojo en fait. Je me présente moi-même, hein, parce que finalement, je vais y aller quoi.
Comment t'appelles-tu?
Alors moi c'est Jojo. Alors bonsoir tout le monde, bonsoir.
Tu vas nous parler de quoi, Jojo?
Ah, il est pénible, hein. Je peux y aller ou pas?
Ouais, allez, oui, vas-y.
Allez, bonsoir tout le monde, bonsoir auditeurs et auditrices. Ce soir, je vais vous parler des climato-sceptiques. Alors avant toute chose, petite question dans le studio, quelqu'un y croit ces conneries?
Non, on va déjà savoir ce que c'est.
Bah on est en t-shirt, hein.
Bon, tant mieux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ça court pas les rues non plus, qui sont ces personnes affublées du terme étrange de climato-sceptiques? Bah, tout simplement, ce sont des gens qui ne croient pas au réchauffement climatique ou pensent que ce n'est pas dû à l'être humain. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. On pensait ces phénomènes disparus et pourtant ils persistent. Alors ça fait peut-être sourire, mais c'est très sérieux. Aux États-Unis, par exemple, il y a des sénateurs, des professeurs d'université, pardon, ainsi que 2 prix Nobel de chimie, quand même. C'est pas rien, quoi.
Alors... Il faut qu'ils sortent du labo, les gars.
Il faut qu'ils regardent par la fenêtre, s'il fait froid ou chaud, quoi. Mais bon, ça, ils savaient pas, hein, à l'époque.
Alors, pour se rencontrer, ils organisent des rassemblements sur un fond scientifique avec des stands et tout le Bataclan à l'américaine où des pseudo-scientifiques nous expliquent, basés sur des études menées par eux-mêmes, que le réchauffement climatique, c'est une grosse arnaque menée par les gouvernements au niveau mondial pour nous s'étirer encore plus d'argent.
Oh les salopes!
C'est vilain, franchement.
Moi, je trouve ça
super vilain.
C'est pas leur choix.
Bon, ça, franchement, c'est un argument quand même.
Ouais.
Là, il marque un point.
Mais bon, on va passer à la suite.
Des gouvernements de gauche.
On n'en parle pas tellement d'eux. Enfin, on va y venir après. Alors, j'ai noté quelques-unes de leurs élucubrations. Alors là, c'est un professeur d'université qui nous dit 2 points. L'air est composé à 0,04% de CO2, dont une infime partie seulement produite par l'homme. Donc il est physiquement impossible que cela participe au réchauffement de l'atmosphère. Et j'ai noté celle-ci aussi qui est vraiment énorme. Alors, dans les années 60, il y avait 5000 ours polaires. En 2015, 15 000. Cessons de penser qu'ils sont en voie d'extinction. Alors, je sais pas s'ils savent compter, enfin bref. Évidemment, vu d'ici, ça ressemble à du grand guignolesque, et ça l'est. En effet, en 2013, une importante étude publiée dans les Environmental Research Letters a décortiqué 12 000 résumés de recherches menées par 29 000 experts dans le monde entier. Conclusion: 97,1% des études valident que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine.
Alors pourquoi 2,9% de sceptiques persistent-ils? C'est parce qu'on leur file du pognon pour le faire.
Qu'on leur coupe la tête!
On sait par exemple que les géants pétroliers américains, ExxonMobil a versé plus d'un million d'euros à des organisations de recherche s'opposant à l'idée d'un réchauffement créé par l'homme. En 2015, une enquête a révélé que le chercheur américain Willie Soon a reçu plus d'un million de dollars durant toute sa carrière, et c'est pourtant sur ses travaux que s'appuient les sceptiques du monde entier. En France, on est beaucoup plus timide. Si on a Vincent Courtillot, référence du climato-scepticisme à la française, reconnaît avoir reçu des fonds financiers de la part de Total, mais que cela n'influencerait pas ses travaux. Ça, c'est lui qui le dit. Évidemment, ce mouvement n'a pas fait effet boule de neige et reste très marginal. Mais ce qui m'agace le plus dans tout ça, c'est que les compagnies pétrolières distribuent des dollars à tour de bras pour brasser du vent. Mais quand, sur une côte bretonne par exemple, un pétrolier s'échoue et souille une grande partie du littoral pour des décennies, ben là, ils veulent pas payer. Alors vous me direz, ouais, c'est toujours la même histoire, tu te répètes, t'enfonces des portes ouvertes. Oui, peut-être, mais c'est en l'oubliant ou en évitant d'en parler qu'on les laisse gagner et prospérer, et dans un certain sens, ça nous rend complices quelque part. Voilà, j'espère que ce petit sujet, en ces temps moroses, vous aura égayé en cette fin de semaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et vous dis à bientôt.
Ma vache à grosse est rendue dans le pré pour la faire passer. Il faut la pousser. Ma vache à grosse. Ma vache à grosse. Mes poules en grosse. Mes poules en grosse. Elles sont toutes éplumées. Quand elles sont toutes gonflées, les œufs sont tous écrasés par leur obésité. Mes poules en grosse. Mes poules en grosse. Aussi. Mon chien a grossi. Mon chien a grossi. Coincé dans sa niche. C'est bête pour la caniche. Mon chien a grossi. Mon chien a grossi. Maman.
Eh ouais, les gars, on est de retour. Bon, ben voilà, c'était Ma Vache a grossi des VRP. Faut arrêter de bouffer comme ça, quoi.
Mais et la viande est cancérigène aussi.
Ouais, ce qui paraît. Ouais.
Ben non, après en Argentine ils font de la très bonne barbac. D'ailleurs, si on veut sauver le pays.
Alors, est-ce qu'ils en parlent du réchauffement climatique en Argentine? Est-ce que ça touche?
Je sais pas. Parce que l'épée de vache, par contre, à ce qui paraît, enfin, moi on m'a dit que c'était une proportion du méthane créé sur Terre.
Ouais, ouais, non, mais apparemment c'est pire énorme. Qu'une centrale nucléaire.
Apparemment c'est, ouais, très, c'est très important.
Une vache, il vaut mieux avoir une centrale nucléaire devant toi qu'une
vache.
Ouais. Ben voilà,
et, et si on a qu'une seule vache, est-ce qu'on peut s'en servir comme groupe électrogène, sans parler de centrale nucléaire?
Ah, après, si t'arrives à garder le gaz, ça peut peut-être le faire.
Non, j'ai peut-être mieux. On met du gaz sous pression, en fait, pour ensuite le récupérer et juste s'alimenter en gaz.
Oui, au cul de la vache.
Au cul de la vache.
Bah oui, évidemment. Ça, tu fais une mini-serre pour que ça fermente un peu plus.
Mais ça, c'est les centrales à méthanisation. Ouais.
Bah, mais ça fonctionne très bien au niveau individuel, pour une habitation.
Tu rajoutes une centrale nucléaire, parce que seul, ça pollue trop. Du coup, tu rajoutes une centrale nucléaire, comme ça équilibre les forces, vu que c'est moins polluant.
Voilà, tu fais marcher la physique quantique.
On a tendance à oublier que le nucléaire est propre.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, on oublie souvent que le nucléaire est propre. Ouais. Contrairement aux vaches qui marchent dans les champs et dans la merde, il faut le dire.
Non, mais remarque, l'uranium, il n'y a rien qui vit dessus. C'est ça qui est génial, en fait. Il n'y a pas de bactéries.
Non, c'est propre, c'est nickel.
Il y a des habitants quand même au-dessus. Hein. C'est en Afrique, je sais. Bon, c'est pas très important. Mais...
Ouais, mais dessus, c'est pas grave, on s'en fout de dessus.
Dessus, l'Afrique, c'est en dessous, non?
Ouais,
voilà. C'est au-dessus de l'uranium.
Ça dépend de l'uranium,
d'accord. Oui. Eux, ils sont au-dessus de l'uranium. Ils ont la chance d'avoir un carburant propre comme ça dans ces terres. C'est quand même énorme. Alors que nous, en France, qu'est-ce qu'on a?
Ils en parlent du réchauffement climatique en Afrique.
En Afrique?
Ouais, bah, ils trouvent qu'il fait chaud depuis longtemps.
Eux, ils espèrent le refroidissement climatique.
Ils le vivent, en fait. À mon avis, ils n'en parlent même plus.
Eux, ils espèrent le refroidissement climatique.
Du coup, ils sont
fort probables, d'ailleurs.
Non, mais là où je suis d'accord
peut-être
avec
que, en fait, en Afrique, il y a des climato-sceptiques qui disent que le climat se refroidit d'année en année.
Oui, c'est possible.
Ça, je vais pas aller vérifier, j'aurais dû y penser. J'ai pas pensé à...
Ah ben, jeudi prochain au pire.
Bah jeudi prochain, je peux faire ça, les climato-sceptiques sur le refroidissement climatique.
Putain, c'est déjà l'heure là, non?
Oh non,
ouais, c'est putain de techniciens qui veulent nous virer.
Non, laissez-moi, je veux pas sortir du studio.
Non, moi non plus.
C'est une mission de secours.
Ah, ça y est.
Hélicoptère, c'est vraiment super.
Ils vont nous virer pour de vrai cette fois-ci.
C'est parti.
Allez, on est parti pour la musique n'est pas une religion.
Et à bientôt au cul de l'église.
Ciao les gars. Merci.
Ciao.
Bon, vous avez pas honte d'écouter des émissions aussi subversives? Si vos parents étaient au courant, ça barderait. Alors éteignez ce poste et allez tout de suite au lit. Allez, bisous à tous les gars. Ciao.
Allez, ciao.